13h01, ça fait des semaines et des semaines qu'on vous parle de ça, du problème d'itinérance partout au Québec. Nous, de notre côté, c'est précisément à Québec, dans le coin de l'Aube-Rivière, dans le quartier Saint-Roch. Si vous n'êtes pas allé faire un tour dans les dernières années, allez faire un tour pour constater à quel point l'itinérance a augmenté, à quel point, malheureusement, avec l'itinérance, il y a des problèmes d'alcoolémie, il y a des problèmes de toxicomanie aussi qui arrivent dans l'aventure. C'est d'une tristesse, le quartier Saint-Roch, autant le jour, autant le soir que la nuit. Et on se demande tout le temps, puis on salue en passant l'initiative de plein de gens. Je salue notre chum Éric Boulay à l'Aube-Rivière, ouais, qui fait une maudite belle job, mais il ne peut pas sauver tout le monde. Mais tout le monde se dit, mais pourquoi? Est-ce qu'on en fait assez, nous, personnellement? Est-ce que les municipalités, comme la Ville de Québec, en fait assez pour essayer d'enrayer la problématique d'itinérance? Est-ce que la coalition Avenir Québec, avec qui est en place présentement, qui représente le gouvernement, en fait assez pour nos itinérants? La réponse, visiblement, c'est non. C'est quoi la solution idéale? C'est quoi la recette qui va faire en sorte qu'on va être capable d'aider ces gens-là? Bon, on va complètement les sortir de la rue. Si vous avez cette recette-là, présentez-vous aux élections. On va voter pour vous autres.
Faites vos propositions, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, l'engrenage est inarrêtable. Puis il ne faut pas que le problème d'itinérance devienne le paquebot de la santé qu'on a depuis plusieurs années. Il ne faut pas que ça se rende là.
Ça prend beaucoup de volonté politique. Ça prend un chef de police aussi qui doit y aller avec la tolérance zéro au niveau de la toxicomanie dans nos rues, ainsi que l'alcoolisme dans nos rues. Je te rappelle, Pascal, en fait, je nous rappelle que si toi et moi, on est pris sur Saint-Joseph, mm-hmm, on est complètement sous, on n'a pas le droit d'être ivre sur la voie publique. Donc, les policiers nous donnent une étiquette, puis si ça ne fait pas, ils nous embarquent, puis ils nous envoient à l'hôpital. Puis si ça ne va pas, ben, ils vont nous envoyer à un endroit pour dégriser. Mais on ne fait pas ça actuellement pour nos sans-abri qui sont dans le secteur de Saint-Roch, qui sont complètement intoxiqués. La plupart ne représentent aucun danger pour les individus dans le secteur de Saint-Roch. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus agressifs, mais j'aimerais, en plus de justement la volonté politique, j'aimerais que le service de police de la Ville de Québec ait comme mandat, puis ça passe par le chef qui vient d'avoir son augmentation de salaire, qui a une tolérance zéro au niveau des gens qui sont intoxiqués dans la rue. Ce serait un bon départ. Peut-être qu'on ne voit pas tout, puis on a eu idée de jaser avec quelqu'un qui travaille directement avec les moins bien nantis. Son nom, c'est, je ne veux pas scraper son nom, il saura me corriger par la suite, mais c'est Boromir Vallée d'Or, qui est directeur général au réseau Solidarité Itinérance du Québec, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Boromir.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Est-ce que j'ai tout scrappé ou je l'ai bien prononcé?
Tu l'as bien prononcé.
Bon. C'est quoi la recette idéale pour essayer d'enrayer l'itinérance? Hier, je regardais un reportage dans le secteur de Drummondville, des itinérants à Drummondville. Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Je savais qu'il y en avait à Montréal depuis des années et des années. J'ai vécu à New York, j'ai vécu à Atlanta. J'en voyais régulièrement, mais ça, je vous parle du début des années 2000. Là, à Québec, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Boromir?
Oui, puis l'itinérance, effectivement, il y en a partout au Québec là, depuis un bon moment déjà. On s'entend tous pour dire que ça augmente. Et la solution, on la tient un peu en partie. Vous avez nommé un exemple, l'Aube-Rivière. Donc, nous, au réseau, on représente des organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Tous nos membres nous le disent, jamais plus qu'auparavant. Donc, aujourd'hui, jamais ils ont autant accompagné de personnes, jamais ils n'ont autant supporté de personnes. Par contre, on remarque que la situation se désagrège dans nos villes. Donc, pourquoi? C'est quoi la racine de ça? C'est une question qu'on s'est posée au 4e État généraux de l'itinérance en novembre dernier à Québec, qui a rassemblé là, plus de 450 personnes qui œuvrent dans le milieu de l'itinérance, des personnes qui ont déjà vécu en situation d'itinérance, des ministères, il y avait des élus qui étaient là. Et là, on s'est dit, on doit renverser la tendance en itinérance actuellement parce que ça ne fonctionne pas. Donc, pendant ces trois jours-là, on a mis en place une déclaration commune. Cette déclaration commune-là, qu'elle nous donne, c'est une vision pour dire qu'est-ce qu'on doit faire au Québec, qu'est-ce qu'il nous manque. Puis c'est très positif parce que on a déjà là autour de 19 000 signatures autour de cette déclaration commune-là et 22 municipalités qui ont appuyé, notamment votre ville, la ville de Québec. Et là-dedans, on dit qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'une part la crise du logement. Donc là, on l'a vu avec le 1er juillet qu'on vient de passer. Comment ça au Québec en 2025, il y a encore du monde qui ne trouve pas de logement pour être capable de déménager. Donc on a un problème. Il faut construire des logements sociaux. il faut construire des logements communautaires.
Okay. Monsieur Borromée, je vais vous émettre certains commentaires que j'ai. Là, pis, ça vient de moi et de d'autres personnes. Puis je veux que vous me corrigiez au fur et à mesure. Okay? J'ai l'impression que si on fournit un logement à certains individus dans un faible pourcentage, ce ne sera pas suffisant parce que ces gens-là auront toujours des problématiques d'alcool et des problématiques de drogue, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ils ne sont pas vivables dans un édifice à logement parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens psychologiques d'habiter seul dans un édifice à logement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, cette clientèle-là particulière qui est un faible pourcentage peut-être des itinérants, mais sont inaptes à habiter seul dans un logement, puis quand ils n'ont pas de logement, sont dans la rue, sont inaptes à ne pas être gelés, là?
Votre intuition est bonne parce qu'effectivement, un logement, ce n'est pas tout. Une des clés pour supporter les personnes à se sortir de la situation dans laquelle elles sont, c'est l'accompagnement. Il faut être avec eux, il faut les supporter dans leurs différentes démarches qui, des fois, remontent à très longtemps. Des fois, ça peut être des enjeux physiques, des enjeux psychologiques, des fois, ça peut être des enjeux familiales, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là pour les accompagner dans ces situations-là, pour qu'elles puissent améliorer leur situation? Et ce qu'on remarque, il y a quand même une incohérence parce que les gens, souvent, elles essaient de demander de l'aide, puis elles ne l'ont pas quand elles le demandent. Notamment, ça fait partie aussi des pistes de la déclaration commune, il faut renforcer nos interventions en prévention pour pas que les gens se ramassent à la rue, pour éviter qu'ils y aillent, mais aussi il faut augmenter l'accès aux services de santé publique. Donc ça aussi, ça fait partie là, des cibles qu'on essaie de mettre de l'avant.
Est-ce que il y a eu une augmentation de l'itinérance à la grandeur du Québec ou c'est principalement dans les endroits où on leur offre énormément de services, où il y a une forte concentration qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant?
En fait, cette augmentation-là, on l'observe dans l'ensemble de la province, là, chiffre à l'appui avec les exercices de dénombrement qui ont été menée depuis 2018. Donc ça, c'est clair, il y a plus de personnes à la rue actuellement, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de développer davantage de services pour accompagner ces personnes-là. Donc les membres du réseau, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? C'est qu'elles supportent les personnes qui sont à la rue pour en sortir. Donc, si on regarde les rapports annuels des différentes organisations, puis qu'on les additionne, on se rend compte que plus qu'il y a de l'organisme sur un territoire, au final, puis plus que les gens sont soutenus, moins elles sont laissées à elles-mêmes. Et un bout aussi là que j'aimerais attirer votre attention, puis qui fait partie de la déclaration commune, c'est le fait que le gouvernement, on se posait la question, est-ce qu'il en fait assez actuellement? Eh bien, la réponse est non. Une partie de la déclaration commune est que le gouvernement doit faire une priorité l'intervention en matière d'itinérance là, pour sortir de cette crise-là qu'on vit actuellement, parce que c'est une situation de crise. Ce qu'on a besoin, c'est des gestes forts dès maintenant.
Boromir Vallée d'Or, encore là, c'est peut-être des préjugés, mais si on trouvait une place, un asile, un peu comme dans le temps on avait Robert Chefort, là, un gros édifice dans lequel ces gens-là pourraient avoir toute la gang des chambres avec les services qu'on... Au même titre que les services qu'on offre à l'Aube-Rivière, peut-être qu'un beau modèle que je vois, là, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'Aube-Rivière, c'est-à-dire des logements qui sont supervisés, des chambres qui sont supervisées, où les locataires ont certaines étapes à faire s'ils veulent rester à cet endroit-là. Si on construit un gros édifice, ou encore si on rouvre une portion de Robert Chefort pour loger ces gens-là, avec des gens qui sont là pour en prendre soin, puis avec des droits de sortie, bien entendu, est-ce qu'on pourrait aider ces gens-là de cette façon-là?
Là, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Ouais. On fait des propositions, etc. Mais moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est d'aller voir les organismes communautaires et de leur demander qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être capable de mieux agir, puis qu'on leur donne, en fait, parce que les organismes communautaires ont des limites actuellement dans leur capacité d'agir. Il faut que le gouvernement soit présent, parce que, comme je dis, les organismes n'ont jamais autant travaillé que présentement. Il faut qu'on prévienne l'itinérance. C'est sûr qu'en pleine crise de logement, avec un chèque d'aide sociale qui est à 800 $ par mois, le fait que les soins de santé soient difficilement accessibles, c'est tous des facteurs précipitants là qui apportent les gens à la rue. Donc, On a un pas de recul à prendre, là. Si on veut développer de nouveaux services, demandons aux organismes qu'est-ce qui serait pertinent. Puis ça, c'est vrai dans l'ensemble de la province, mais en parallèle, il faut que le gouvernement agisse sur les facteurs systémiques, on pourrait dire.
Parce que les petits organismes qui travaillent ensemble, là, c'est plusieurs organismes, c'est jamais un gros qui va tenter de régler des problèmes. Puis ils veulent toute leur petite portion d'argent pour pouvoir, de un, payer les loyers, payer les employés, bien entendu, aider les bénévoles, payer le local. Mais si on travaille tout à la gang, là, d'avoir un asile dans chaque ville pour pouvoir accueillir ces gens-là, qui n'ont pas de toit, ce ne serait pas plus logique parce que tous ces gens-là seraient réunis à la même place. On n'aurait pas de misère à retrouver les gens qui sont en difficulté, Boromir.
Moi, j'avais entendu l'expression l'archipel communautaire pour
oui.
dire que
oui, c'est beau.
Un archipel, c'est comme composé de plusieurs petites îles. Puis historiquement, au Québec, le milieu communautaire a fait le choix de développer des missions pour travailler envers certaines populations et tout en travaillant avec les organisations autour. Donc, les organismes communautaires, de par nature, vont déjà travailler en collaboration avec les autres organisations sur leur territoire. Et la force que ça a, c'est qu'on va chercher une partie plus grande de la population. C'est sûr que des grandes organisations qui voudraient rejoindre tout le monde, ben là, on se commencerait avec des situations où il y aurait beaucoup de personnes qui ne se sentiraient pas concernées. C'est dur pour une organisation de répondre à tous les besoins, notamment pour les femmes, pour les jeunes, pour les hommes, pour les gens qui ont des animaux, pour les gens qui n'en ont pas, pour les familles. Donc, cette diversité-là de réalité en itinérance, ce qu'on pense, c'est qu'il nous faut une diversité de réponses. Et puis, l'archipel, on peut dire, communautaire, permet ça. Et puis, si on compare l'investissement que ça représente socialement que d'investir dans cet archipel-là, ça apporte de la prévention, ça fait qu'il y a moins de gens à la rue, ben on est gagnant au final là, au niveau économique. Là.
Boromir Vallée-Dor, vous êtes directeur général du réseau de solidarité et itinérance du Québec. Ça veut dire que vous avez un accès assez privilégié au ministère, au gouvernement, dans des discussions, dans des rencontres. Par rapport à ça, est-ce qu'il voit la crise de l'itinérance dans la province en silo ou en globalité? Parce que personnellement, moi, ça m'inquiète si on le voit en globalité et non en silo, mais avec un certain pont entre chacun des silos, parce que j'ai l'impression que chacune des municipalités, des villes, vit quelque chose d'un peu différent selon les infrastructures, les équipes en place, etc. Puis c'est pas juste de l'argent qui va aider, assurément, là.
Bien, c'est central, cette collaboration-là, entre les différents ministères et entre les différents paliers de gouvernement, parce qu'il y a le municipal, il y a le provincial, ouais. mais aussi le fédéral.
Vous sentez qu'ils travaillent vraiment ensemble et que c'est une priorité?
Bien, c'est ça, non.
Okay.
pas assez à notre goût. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a beaucoup de travail en silo. Le fait que l'itinérance soit tombée un peu... je rappelle qu'en 2023, l'Assemblée nationale a déclaré l'état de crise en matière d'itinérance. Fait qu'on n'a pas à convaincre l'Assemblée nationale de ça. Par contre, ce que ça le fait, c'est que les gens se sont mis un peu à travailler chacun de leur côté pour trouver des solutions qui leur apparaissaient la meilleure et la plus facile à mettre en place. Donc là, puis ça, c'est un constat qui est ressorti des quatrièmes États généraux l'année dernière. Il faut qu'on abolisse ces silos-là et il faut qu'on soit capable de travailler de façon intersectorielle parce que l'itinérance, c'est complexe. C'est lié au fait que des fois, les gens n'ont pas de logement, n'ont pas des revenus assez suffisants, ont besoin d'accompagnement pour les populations vieillissantes, qui ont besoin d'un support peut-être plus un peu en gérontologie là, pour les personnes âgées. Tout ça devient très complexe autour d'un même individu, ce qui nous force à travailler ensemble parce que en silo, on passe à côté. Puis oui, pour répondre à votre question, en ce moment, on sent qu'il n'y a pas assez de collaboration intersectorielle, là, que le travail se fait beaucoup en silo.
Quelle est la place de la maladie mentale non traitée chez les itinérants?
C'est toute une spirale, je dirais, là, santé physique, santé mentale, qu'on peut voir. Puis des fois, ça devient difficile de dire... c'est un peu la poule et l'œuf. Hein? Quand tu commences à vivre dans la rue, est-ce que c'est ça qui cause qui nuit à ta santé mentale ou tu avais déjà une santé mentale précaire avant d'y aller? C'est important qu'on se pose la question parce que c'est rough vivre dans la rue. N'importe quel humain là peut avoir des impacts de ça par la suite. Donc, moi, je pense que c'est dur de dire c'est-tu la cause, c'est-tu le symptôme? Mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on s'assure que les jeunes restent le moins longtemps possible à la rue ou qu'ils n'y aillent pas, parce que dès qu'ils y mettent les pieds, évidemment, leur santé physique, psychologique se dégrade là, à vitesse grand V. Là.
Est-ce que la désinstitutionnalisation, Boromir, ça l'a aidé à quelque chose, ou avec du recul, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne devraient pas être dans la rue, qui devraient être en institution?
Ben, ça, c'est sûr que la désinstitutionnalisation, ça commence à dater. On entend beaucoup des discours de « on devrait-tu forcer des soins ou pas? » Je rappelle aussi que ce que j'ai dit un peu auparavant, c'est que les gens, quand ils demandent de l'aide, ils n'en ont pas. Donc là, c'est toujours maudit après ça d'arriver à un moment puis de forcer des soins par après. Puis je rappelle que le milieu communautaire est un peu là pour ça. En fait, on accompagne les personnes dans réaliser leur situation puis d'aller chercher, eux, des supports un peu à gauche et à droite en fonction de leurs besoins. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand on force des soins, ben, ça peut causer des traumas par la suite. Mmh. Donc, on n'est pas plus avancé là, à ce niveau-là, mais c'est une question très difficile qui nous ramène à ce qu'on demande dans la déclaration commune. C'est quand les gens font des demandes d'aide au réseau de la santé, ben, que le réseau de la santé réponde présent et qu'il ne les renvoie pas à la rue.
Ben, d'avoir autant d'incertitude quant à l'application de nouveautés ou encore de prendre le trauma. Tu sais, tout ça, c'est normal. Là. On parle souvent ici de gants de velours, mais avec la main de fer, puis essayer de trouver une tendance pour que tout se fasse rondement. Mais à un moment donné, le questionnement par rapport aux actions mène pas à l'inaction?
Au contraire, dans le sens où, tu sais, je le rappelle, au réseau, on représente là, des organismes communautaires qui sont au quotidien avec des personnes qui en arrachent. Ce qui fait en sorte que les intervenants de ces boîtes-là qui travaillent avec les gens de la rue en viennent qu'en arracher, puis à pas trouver ça évident. C'est dur d'accompagner des gens quand ces personnes-là ont aucune porte ouverte nulle part, puis comme accompagnant de constater que crime, j'arrive pas à trouver une place pour cette personne-là. Il y a une souffrance qui se partage. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tout le travail qu'on fait, c'est avec nos membres, puis on met beaucoup d'importance au fait qu'on soit pas juste en discussion, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de détresse chez les personnes accompagnantes, mais aussi chez les personnes accompagnées. Donc, ça fait partie intégralement, nous, comme vous l'avez mentionné, on travaille avec les ministères. Là. C'est important que les choses bougent là aussi, parce que c'est ça, la souffrance est grande actuellement.
Boromir, ça a été un plaisir. Puis je vous félicite, là, tous les gens qui travaillent dans le communautaire, toute ta gang au réseau Solidarité Itinérance du Québec. Vous travaillez extrêmement fort, puis vous êtes des gens de cœur. C'est toujours un plaisir.
Bien, merci. De nous avoir reçus.
Bye-bye. Boromir Vallée-d'Or, qui est directeur général au réseau Solidarité Itinérance du Québec. Je te rappelle, je pense que je t'en parlais tantôt autour de 11h quand on a commencé le show hier. J'étais dans mon Saint-Roch natal, puis j'étais sur Saint-Joseph. Il est mon nouveau Saint-Roch, parce que j'habite maintenant là. J'étais un résident de Saint-Roch.
Yannick, il tripe tellement sur sa job qu'il voulait être au centre des choses.
Me suis pogné. Mais
ça aide, ça ground. Hein. Ah, c'est fou.
Ça ground, hein, parce que tu sais, t'es dans ta banlieue, puis il n'y a rien de ça qui existe. Puis là, je suis allé au centre-ville, je suis retourné là où j'habitais. Et y avait une dame qui était sur un banc de parc là, qui est sur le boulevard Charest, juste à côté d'un abribus. Puis elle était avec son conjoint qui semblait être un peu plus jeune, mais la dame était autour de 75 ans. Puis je voyais ma grand-mère. T'sais, puis la dame était en train de dormir, pas dormir droit, là, t'sais, assis droit avec la tête reposée sur le mur arrière. Non, non, elle était en U. Je sais pas si tu comprends.
Courbée,
là. En U de côté, là. Puis elle penchait la tête par en avant. Puis ça avait vraiment pas de l'air à bien aller. Puis t'avais le monsieur qui était à côté, qui était un peu chargé de sa sécurité, j'imagine, là. Ça semblait être un couple, parce que je l'ai revu ce matin. Ça doit être épouvantable à 70, 75 ans de te ramasser dans la rue.
Puis sais-tu quoi, Yannick? J'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens qui vont être dans le coin de cette situation précaire-là. On le sait qu'au courant des dernières années, c'est ça, mais les personnes âgées, puis la scène que tu évoques en ce moment, en arrache énormément financièrement. Je te donne un exemple. Quand je me suis séparée là, de mon couple de 8 ans et demi, là, il y a quelques années, ça fait peut-être 4 ans, moi, j'ai déménagé. Puis j'ai déménagé dans un appartement où j'étais entourée de deux vieilles dames extraordinaires. Ces dames-là, ils vivaient depuis, mettons, 20 ans là, dans le même appartement. Fait qu'il y avait un prix adéquat pour leurs finances, avec les finances de leur retraite. Ça devait tourner probablement autour de 500-600. Ça se trouve plus, là, ça. T'sais. Mais du jour au lendemain, le locataire, s'il décide de rénover les blocs puis de faire de la rénoviction, ces dames-là ne retrouvent pas la paix d'esprit qu'ils ont financièrement avec le logement. Puis leur paye ne va pas augmenter.
Non, mais il y a de l'aide du gouvernement là, pour compenser pour l'aide au logement.
Mais beaucoup de grands-parents
La curatelle publique peut embarquer là-dedans puis va te trouver un logis là, dans un HLM.
Aussi une famille
avec
pour
une liste d'attente
ça.
À n'en plus finir. Ouais, avec le CLSC, pour les gens justement là, qui ont des grands-parents qui sont dans ces situations-là, avec le CLSC, les gens vont pouvoir vous aiguiller. Puis c'est la curatelle qui
Je pense qu'il faut l'adresser. La bouchée généreuse, là, quand on est allé, ça t'a pas marqué, ça? Le nombre de personnes âgées qui venaient chercher des paniers.
Ah, je suis fessé. Je suis fessé. Bouchée généreuse, L'Aube-Rivière. Si vous voulez vous en remettre les idées en place, là, allez dans ce secteur-là, secteur Saint-Roch, secteur de L'Aube-Rivière. Juste en face du YMCA aussi, vous voyez des trucs là que vous ne voyez pas en banlieue, puis ça ground vraiment. J'espère juste que la Ville de Québec va envoyer un message clair, de un, pour les résidents et les commerçants de la Ville de Québec, c'est l'intoxication dans les rues, que ce soit par l'alcool ou la drogue, faut que ça cesse. Si tu es intoxiqué, tu n'as pas d'affaire là, faut que peut-être te faire désintoxiquer. Puis ça passe par le service de police de la Ville de Québec. 80% des interventions de nos policiers dans le secteur Saint-Roch, ça touche la maladie mentale. Puis il y a un certain laxisme au niveau de l'intoxication dans nos rues, dans ce secteur-là. Je sais de quoi je parle, je le vois. Il y a des policiers qui passent à côté des gens qui ont de la misère à marcher. Puis ils font comme si de rien n'était. Alors que si c'était toi, Pascal, qui était saoul à 3h30 du matin sur la route, le policier arrêterait pour te dire « Madame, vous n'avez pas le droit d'être dans cet état-là sur le bord de la route. »
Embarquez-moi,
en
monsieur l'agent.
Ben, tu sais, il va te donner une étiquette de 1 parce que tu n'as pas le droit. Ouais. Je ne sais pas si ça se donne régulièrement, ce type d'étiquette-là. Moi, j'avais 18 ans. Je revenais du bistrot plus.
C'est une nuisance publique?
Non, c'est... sur la voie publique.
Une nuisance publique, certaines fois, sur Saint-Joseph, à 3 heures du matin, ça peut se donner aussi.
Mais j'étais effectivement sur Saint-Joseph, puis je revenais du Bistrot Plus. T'as-tu connu ça, le Bistrot Plus?
Non.
J'avais pas 18 ans quand j'allais au Bistrot Plus.
Ou c'est un resto?
Je devais avoir 16 ans, mais je sais que j'avais mon véhicule. Fait que je devais avoir 16-17 ans, puis on revenait du Bistrot Plus. À un moment donné, mais mon chum, il fallait qu'il aille chez eux, il restait. Fait que là, moi, je marchais tout seul sur la rue Saint-Joseph. Je retournais chez nous dans le quartier Saint-Sauveur, puis ma voiture était chez nous. Fait que je prenais pas ma voiture, bien entendu. J'étais complètement saoul. Puis j'ai eu un ticket de genre 60 pièces.
OK.
Puis le policier me dit « Qu'est-ce que vous faites à cette heure-là dans la rue, monsieur? » J'ai dit ouais. « Ben là, je reviens d'un bar. » Puis là, il m'avait donné...
Connaissant, tu chassais les poules et j'aime ça.
Il m'avait demandé mes papiers. Puis il m'avait remis un ticket de 60$ parce que je marchais croche. Puis là, j'avais demandé c'était combien insulte un agent de la paix parce que je le trouvais trop de cul de faire ça. J'avais pas pris mon véhicule parce que je savais que j'allais consommer de l'alcool. Puis j'avais laissé mon véhicule chez nous. Ouais. Puis je revenais du Bistrot Plus jusqu'à chez nous. J'étais pas riche, là. J'avais 17 ans, 18 ans. Fait que je revenais du Bistrot Plus jusqu'à chez nous à pied. Il faisait beau, c'était l'été. Puis le flic, avec son collègue, m'a donné genre 60$.
Mais
dans...
ça, toute ça ton histoire, par contre, moi, j'aime ça apporter le genre de... J'aurais aimé ça qu'ils te le donnent pas nécessairement, mais qu'ils t'avertissent. Parce que je veux dire, la prochaine fois, peut-être que tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu sais, quand t'es jeune, là, parce que t'as eu ta contravention, puis tu vas choisir une autre solution. Parce que tu dis, ouais, mais si je marche en état d'ébriété sur la voie publique, ça se peut que je me pogne une étiquette. Puis là, quand t'es jeune, t'en as pas d'argent, tu travailles pour ton dû le plus possible, tu vas à l'école. Toi, je sais plus, hein, des fois, ça paraît pas, mais t'étais-tu à l'école à ce moment-là?
Mon secondaire 1, ça a été mes 7 plus belles années de ma vie.
Que ça coûte extrêmement cher pour un étudiant à étiquette de cette ampleur-là. Fait que j'aimerais ça, des fois, si c'est le cas, que les policiers aient un genre de... laisser passer pour des jeunes du type qui prennent
des
décisions.
Ah, il y en a, là. Je pense que c'était discrétionnel.
Je pense majoritairement, ouais.
C'est à la discrétion du policier.
Il y en a qui ont déjà ramené des jeunes à la maison, là, qui ont fait un genre de nez rouge.
C'est souvent
là.
Des filles, oui.
Non, je te parle des gars ou des jeunes qui flânaient, puis ont fait comme « Hey, je te ramène chez toi, mais
les chums de filles, moi, qui m'ont dit que les policiers les avaient ramenés à la maison, là, alors qu'elles marchaient, les policiers, ils disaient « Embarquez avec nous, on va vous porter, madame. »
Mais par sécurité, peut-être, là.
Puis nous autres.
Mais toi, c'est parce que la face que t'as, j'ai plus peur que t'embarques dans ma voiture à 3h du matin que
t'as laissé sur le trottoir. On mérite la sécurité aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Martin? Ivresse sur la voie publique, ça devrait être exercé avec le jugement de la part des policiers. Ben, c'est ça, c'est de ça que je parlais, là. Effectivement. Mais actuellement, j'ai toujours pas de policiers qui m'ont confirmé ce que je t'ai avancé là, là. 418-971-1021. Mais il y a une tolérance dans le quartier Saint-Roch pour ceux qui sont intoxiqués, que ce soit par l'alcool ou la drogue. C'est d'une évidence. Puis j'invite les commerçants, j'invite les résidents de Saint-Roch à se plaindre au service de police de la Ville de Québec et se plaindre à la Ville de Québec. Ça devrait être tolérance zéro. Et tu sais quoi? Ils vont réagir quand il va y avoir une tragédie. Quand il y aura un itinérant souvent. Qui va se faire fesser en pleine rue sur Charest, quand il y aura une bagarre entre un itinérant puis un commerçant, puis l'itinérant va poignarder le commerçant, là, les policiers vont arriver en disant « Hey, j'ai la solution », alors qu'il aurait dû le faire, il aurait dû travailler en amont depuis le départ. Voyez à quel point j'ai beaucoup de respect pour les politiciens. 13h26, 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. On revient.
Marceau, le